Bonjour, la Grande-Bretagne devrait annoncer aujourd'hui une interdiction des échanges commerciaux avec les implantations de Judée-Samarie.
L'Iran menace les États-Unis d'instaurer une zone d'exclusion maritime dans le golfe Persique. La Syrie reste attachée à une solution diplomatique avec Israël, c'est ce que déclare le ministre des Affaires étrangères syrien devant la Ligue arabe.
Et enfin, l'Europe doit prendre ses responsabilités et protéger adéquatement sa frontière sud, c'est ce qu'a déclaré le premier ministre belge Bart De Wever.
La Grande-Bretagne doit annoncer aujourd'hui une interdiction des échanges commerciaux avec les implantations de Judée-Samarie.
Une décision qui marquerait une escalade significative de la pression exercée par Londres sur Israël et pourrait inciter d'autres pays à prendre des mesures similaires. Le New York Times a rapporté que 7 responsables informés de ces mesures avaient indiqué que le dispositif devrait inclure une interdiction commerciale des produits fabriqués dans les implantations israéliennes. 3 d'entre eux ont précisé qu'il pourrait également inclure des sanctions à l'encontre des entreprises contribuant à la construction des implantations. Ces mesures iraient bien au-delà des précédentes sanctions britanniques liées à la Judée-Samarie qui visaient des individus et des ministres israéliens de droite nationaliste. Lord Tariq Ahmad, qui a occupé le poste de ministre britannique chargé du Moyen-Orient jusqu'en 2024 et qui a connaissance de la politique envisagée, a déclaré au New York Times que le gouvernement britannique passait des individus à l'examen des processus et du système, je cite. Et puis à la suite des annonces de mesures britanniques anti-israéliennes, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a demandé hier soir l'exclusion de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Israël.
Expulser l'ambassadeur britannique ce soir, a posté Bezalel Smotrich hier sur X. Le mandat britannique sur la terre d'Israël est terminé. Bezalel Smotrich a ajouté qu'Israël ne serait pas, je cite, un paillasson piétiné par un gouvernement antisémite et a qualifié le Royaume-Uni de pays conquis par l'islam radical. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a également réagi aux informations faisant état de l'interdiction britannique en appelant Israël à reconnaître les îles Malouines comme, je cite, territoire argentin sous occupation. Il a également appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahu à imposer des sanctions à la Grande-Bretagne tant que l'opération suivra. L'annonce prévue au Parlement doit avoir lieu dans l'après-midi après un débat sur la sécurité des Juifs prévu à 9h30 à Westminster Hall. Et dans ce contexte, le gouvernement argentin a annoncé le dépôt d'une plainte pénale contre plusieurs sociétés liées à la compagnie énergétique israélienne Navitas Petroleum.
Oui, des compagnies qui sont accusées d'exploiter les ressources pétrolières autour des îles Malouines sous licence britannique sans autorisation de l'Argentine. La procédure s'inscrit dans le durcissement de la politique de Javier Milei sur les Malouines, archipel administré par le Royaume-Uni mais revendiqué par Buenos Aires. Le président argentin a récemment promis de renforcer les sanctions contre toutes les entreprises participant à l'exploration ou à l'exploitation d'hydrocarbures dans cette zone contestée, une procédure qui apparaît comme une tâche sur les relations israélo-argentines.
Et c'était il y a quelques jours déjà que l'ambassadeur américain en Israël, Mike Kaby, lançait des accusations graves contre Londres.
La haine des juifs de leur gouvernement ne connaît aucune limite, a déclaré Mike Kaby. Après la reconnaissance d'un État palestinien, Londres accentue donc encore la pression sur l'État hébreu. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a été catégorique. Si le Royaume-Uni prend des mesures contre Israël, Israël répondra. L'Iran menace les États-Unis d'instaurer une zone d'exclusion maritime dans le golfe Persique.
Le corps des gardiens de la révolution islamique tente de mettre la pression sur les États-Unis avec les déclarations de Mohsen Rezi du Conseil national de sécurité iranien qui a dit hier « Washington a reçu un avertissement clair de la part des nouveaux missiles iraniens. La guerre économique sera contrée par une zone d'exclusion maritime s'étendant à travers le golfe Persique jusqu'au périmètre du blocus. » La posture opérationnelle vis-à-vis des navires de guerre et des bases américaines a été fondamentalement réajustée. Le CENTCOM a redirigé 94 navires commerciaux pour faire respecter le blocus contre l'Iran après ces déclarations. Et la réponse de Donald Trump n'a pas tardé. Les prix du pétrole chuteront comme tout le reste lorsque nous gagnerons la guerre contre l'Iran. L'Iran qui ne disposera jamais d'une arme nucléaire, a écrit Donald Trump. Pendant ce temps, Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a affirmé sur Fox News qu'il ne resterait plus que 30 millions de barils de pétrole iranien disponibles hors du blocus américain et que la Chine n'a pas encore acheté. Une fois ses stocks vendus, Téhéran pourrait perdre son dernier grand débouché pétrolier. Selon l'Américain, l'Iran approche d'un point critique dans son bras de fer économique avec les États-Unis.
Le programme nucléaire iranien a été lourdement endommagé par les frappes américano-israéliennes de 25 et 26.
Actuellement, l'Iran n'exploiterait plus aucune centrifugeuse et la majorité de ses quelques 20 000 appareils auraient été détruits. Ses principales installations nucléaires seraient également hors d'usage, tandis que ses stocks d'uranium enrichis à 20 et 60% resteraient difficiles d'accès, enfouis sous les décombres. Le risque vient cependant de ce qui a survécu dans les profondeurs des sites souterrains. Quelques centaines de centrifugeuses IR-6 de dernière génération pourraient, si elles étaient récupérées et reconnectées, permettre à Téhéran de reprendre clandestinement l'enrichissement d'uranium. L'Iran pourrait également tenter d'extraire discrètement une partie de ses stocks enfouis. Autre difficulté, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, n'a plus accès aux installations iraniennes, et ce, depuis juin 2025. La priorité d'Israël est donc désormais d'empêcher l'Iran de reconstruire les installations nécessaires à la fabrication d'une ogive nucléaire. Selon les sources citées, aucun progrès significatif n'a encore été observé dans ce domaine. En résumé, le programme nucléaire iranien aurait été retardé de plusieurs années. Le danger est aujourd'hui moins important et moins immédiat, mais il reste bien réel.
Les rebelles pro-iraniens houthis du Yémen ont affirmé ce matin avoir frappé plusieurs cibles en Arabie Saoudite, dont des installations du géant pétrolier Aramco.
L'Arabie Saoudite a affirmé que des attaques des houthis ont visé des ressources nationales et des infrastructures civiles dans le sud du royaume, faisant 73 blessés. De leur côté, les autorités houthis ont affirmé qu'une frappe aérienne présumée de l'Arabie Saoudite a touché un établissement pénitentiaire à Al-Azem au Yémen, tuant 11 personnes et en laissant 20 autres qui seraient coincées sous les décombres. La Syrie reste attachée à une solution diplomatique avec Israël. C'est ce qu'a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shaibani, selon l'agence de presse syrienne Sana.
Il a fait ses déclarations lors d'une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères de la Ligue arabe réunie au Caire. Nous restons attachés à l'option d'une solution diplomatique et travaillons d'arrache-pied pour y parvenir, tout en œuvrant pour mettre fin aux attaques, aux arrestations et aux incursions israéliennes, a déclaré M. Shaibani. Au cours de cette réunion, il a également rapporté que le gouvernement voulait un contrôle exclusif sur les armes. Il a réaffirmé la solidarité de la Syrie avec les États du Golfe et la Jordanie et condamné les attaques iraniennes contre les pays du Golfe. Des déclarations qui tombent alors que le directeur général de l'AIEA avertit que la Syrie aurait pu utiliser l'uranium pour produire une arme nucléaire. Des traces d'uranium ont en effet été retrouvées sur l'ancien site de Deir ez-Zor, détruit par Israël en 2007.
L'entrepreneur Oren Dubrovski renonce à sa place sur la liste du Likoud. Il devrait être nommé ministre sans être élu député.
Il y a un mois, Benjamin Netanyahou annonçait qu'il serait à la 11e place sur la liste du Likoud. Cet entrepreneur de la Silicon Valley s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas être député sans renoncer à sa citoyenneté américaine. Il ne sera donc pas sur la liste. Le retrait de Dubrovski laisse à Benjamin Netanyahou 6 places réservées à pourvoir avant le dépôt définitif de la liste de son parti aujourd'hui même. Parmi les noms envisagés, David Peter, l'avocate Iska Bina, Talik Vili, la mère de Ran Vili, policier tombé au combat le 7 octobre. Benjamin Netanyahou envisage aussi de déplacer les places réservées du Likoud à la 3e et à la 5e place, ce qui changerait le sommet de sa liste et ferait apparaître Yariv Levin en 4e position, tandis que Miri Regev et Israël Katz seraient repoussés au rang suivant.
Et cette modification de l'ordre des ministres pourrait laisser l'électorat francophone et russophone sans représentants clairement identifiés.
Oui, car dans ce scénario, Zeev Elkin, qui est aujourd'hui le seul candidat russophone de la liste, passerait hors de la 24e place. La question se pose aussi pour l'électorat francophone, qui ne disposerait d'aucun représentant identifiable à une position éligible, alors que les Olim venus de France votent traditionnellement pour le Likoud. La réunion du parti chargée d'approuver ces places doit avoir lieu aujourd'hui à 14h. Il ne reste plus que quelques heures au Premier ministre israélien pour dévoiler l'identité des personnes auxquelles il a décidé d'attribuer ces places réservées.
Le parti orthodoxe séfarade Ch'ass a dévoilé la composition de sa liste pour les élections à la 26e Knesset.
Celle-ci a été approuvée hier par le Conseil des sages de la Torah, l'instance spirituelle qui dirige la formation. Ari Ederi, président du chat, s'occupera la première place. Il sera suivi par Inon Azoulay, Michael Malkieli, Yoav Bensour et Chaim Bitton.
Une enquête du quotidien Haaretz affirme que Benjamin Netanyahou aurait reçu un avertissement explicite concernant les intentions du Hamas une semaine et demie avant le massacre du 7 octobre 2023.
Selon cette enquête, le président des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed, aurait averti le premier ministre israélien au cours d'un entretien téléphonique de 45 minutes que Yahya Sinwar préparait un événement majeur qualifié de tremblement de terre. Benjamin Netanyahou aurait estimé que la menace concernait la Judée-Samarie et n'aurait pas transmis cette information ni à l'armée ni aux principaux responsables des services de renseignement. Un avertissement similaire aurait été adressé par le chef des renseignements égyptiens au bureau du Premier ministre. L'enquête s'intéresse aux premières heures ayant suivi les attaques du 7 octobre. Ces révélations figurent dans le nouveau livre de Shlomi Eldar et Yutuval. Le bureau de Benjamin Netanyahou dément catégoriquement ces informations. Il affirme que le Premier ministre n'a eu aucun échange avec le président émirati et n'a reçu aucun avertissement de sa part. Cette nouvelle controverse a immédiatement ravivé le débat sur les responsabilités politiques et sécuritaires ayant précédé les attaques du 7 octobre.
À Gaza, deux terroristes qui posaient des explosifs contre les soldats de Tsahal ont été éliminés lors de frappes distinctes hier soir. L'un appartenait au djihad islamique, l'autre à l'unité Nourba du Hamas, selon Tsahal.
Nouvelle déclaration choc de Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens. Elle affirme que le déblaiement des décombres à Gaza par Israël pourrait détruire des preuves précieuses de crimes atroces, je cite, et empêcher la récupération de restes humains.
Oui, selon l'ONU, la guerre à Gaza a généré environ 61 millions de tonnes de décombres et de débris, dont le déblaiement pourrait prendre 7 ans. Francesca Albanese a déclaré que les preuves devaient être recueillies et les restes humains identifiés avant que le déblaiement complet ne commence. Elle a publié un communiqué intitulé « Une experte de l'ONU met en garde contre le fait que le déblaiement des décombres par Israël pourrait effacer les traces de crimes atroces », je cite. Elle a également déclaré que les Palestiniens devaient être associés à tout projet d'enlèvement des débris.
Aux États-Unis, le rappeur Macklemore a tenté de répondre aux critiques suscitées par sa prestation en première partie d'Ed Sheeran au MetLife Stadium dans le New Jersey.
Lors de son deuxième concert dans l'enceinte, le rappeur américain a assuré que ses attaques contre Israël ne visaient pas les Juifs, tout en maintenant ses accusations contre l'État hébreu et son soutien à la cause palestinienne. S'adressant directement au public juif, il a affirmé que ses critiques contre Israël ainsi que ses accusations d'apartheid et de génocide ne constituaient en aucun cas une attaque contre les Juifs. Il ajoute que son message était selon lui celui de la paix et de l'amour et de l'égalité entre tous les êtres humains.
Des milliers de personnes ont manifesté hier en Allemagne contre le parti AfD qui a remporté une victoire écrasante lors de l'élection régionale en Saxe-Anhalt.
Oui, les organisateurs ont toutefois avancé le chiffre d'environ 14 000 participants. Le rassemblement a été organisé à la dernière minute par le mouvement de campagne Compact et le mouvement climatique Fridays for Future. Dans la foule, on a pu apercevoir des banderoles avec des slogans tels que « Le fascisme n'est pas une alternative » ou « Stop aux nazis de l'AfD, fin du racisme et des coupes sociales », pouvait-on lire donc. Des participants ont également scandé « Tous ensemble contre le fascisme ». On est revenu sur ce sujet à 7h45 avec Eldad Beck, journaliste longtemps en poste à Berlin et spécialiste de l'Allemagne.
L'Europe doit prendre ses responsabilités et protéger sa frontière sud. C'est ce qu'a déclaré très fermement hier le Premier ministre belge Bart De Wever.
Oui, et ce après un entretien à Rome avec son homologue italienne Giorgia Meloni. Je comprends tout à fait que nous devons renforcer la frontière sud. On parle beaucoup de l'Est et des menaces de ce côté-là, mais nous ne pouvons oublier que nous avons aussi une frontière en mer Méditerranée. L'Europe doit prendre ses responsabilités pour fermer cette frontière. C'est ce qu'a déclaré Bart De Wever. Giorgia Meloni a insisté sur la nécessité d'une meilleure protection des frontières extérieures du bloc. Je reste convaincu que l'espace Schengen ne peut se maintenir que si les frontières extérieures de l'Union sont protégées et que tout le monde contribue à la lutte contre les trafiquants d'êtres humains, a expliqué Giorgia Meloni. Pour Bart De Wever, la clé est aussi dans l'application complète du nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Ce n'est qu'avec une politique de retour crédible que nous pourrons transformer la politique migratoire européenne en succès, a exposé le Premier ministre belge.
La Russie et la Corée du Nord ont achevé la construction du tout premier pont reliant leurs deux pays. Un mot de tennis à présent, le conte de fées d'Alexander Blok se poursuit à Flushing Meadows à l'US Open de New York.
Notre compatriote a sorti l'Argentin Francisco Cerúndolo en 4 manches, 6-3, 3-6, 7-5, 7-5. Il s'est qualifié pour les quarts de finale. Il devient ainsi le premier joueur belge à se hisser à ce stade de la compétition. Alexander Blok, qui était donc hier aux Anges à New York, après avoir réussi à se qualifier pour la première fois pour les quarts de finale d'une levée du Grand Chelem à l'US Open. Depuis les massacres du 7 octobre, les cours de Krav Maga connaissent un regain d'intérêt en Israël.
Absolument, et les entraînements attirent notamment davantage de femmes, de parents désireux de pouvoir protéger leur famille, mais aussi des membres des équipes civiles chargées de défendre les localités. Les participants ne viennent plus seulement apprendre des techniques d'autodéfense, ils cherchent aussi à retrouver un sentiment de sécurité et de contrôle face aux menaces. Le contenu des séances est donc adapté. Le Krav Maga n'est pas un sport de combat traditionnel développé en Israël pour répondre à des situations réelles. Cette méthode privilégie des gestes simples, rapides et efficaces. L'objectif n'est pas de remporter une compétition, mais de neutraliser une menace et de protéger les personnes présentes afin de pouvoir fuir le cas échéant. Dans un pays profondément marqué par le 7 octobre, le Krav Maga est aussi devenu pour de nombreux Israéliens un moyen de se préparer, mais aussi de reprendre confiance.
On termine par une note positive qui parlera à tous nos auditeurs belges. Une nouvelle bière israélienne au miel vient de sortir pour célébrer dignement Rosh Hashanah.
La brasserie Herzl qui la propose, elle s'appelle Shana Tova Kapara. C'est une Easy IPA spécialement conçue pour les fêtes. Le miel utilisé provient de ruches israéliennes et mêle eucalyptus et fleurs sauvages. Avec ses notes tropicales, son amertume modérée et sa touche sucrée, cette édition limitée affiche 5,5% d'alcool environ. Sa canette a également été spécialement décorée pour la nouvelle année juive et elle est certifiée kasher par la Rabbanout de Mahalot. Les Chaim pour les prochaine fête.